Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 3 dont le sujet est « Où jeter l'ancre ?» Et le titre de notre troisième étude, c'est « Le Dieu de la Bible et l'homme ». La Bible nous révèle Dieu progressivement. Pour apprendre un métier, une discipline quelconque, il est nécessaire de le faire progressivement, du plus simple au plus complexe. Ainsi a agi Dieu pour sa révélation, afin qu'elle soit comprise et par là même acceptée. Tout d'abord, Dieu révèle sa personnalité. Pour Adam, en Genèse chapitre 1, verset 22, Dieu a été Elohim. C'est le pluriel de Eloah qui signifie divinité, c'est-à-dire un être à qui l'on voue un culte. Pour les patriarches, en Exode chapitre 6, verset 3, Dieu fut El, ce qui signifie puissance, la toute puissance que l'on adore. Et pour Moïse, en Exode chapitre 3, verset 14, Dieu est YHWH. En hébreu, ces quatre consonnes ne peuvent se prononcer. C'est, si vous voulez, la forme causative du verbe « exister », ce qui signifie « il fait exister », ou encore c'est la contraction du passé, du participe présent et du futur du verbe « être », à savoir « il fut, étant et il sera ». Les Bibles françaises traduisent « YHWH » par l'Éternel ou Yahvé. En reprenant dans l'ordre ces quatre parfums de l'essence de Dieu, eh bien nous avons, premièrement, Elohim, qui veut dire Dieu au pluriel. Deuxièmement, El, donc E-L, qui veut dire Dieu au singulier et en général. Troisièmement, Eloah, donc Eloah, qui veut dire Dieu au singulier et en particulier. Et quatrièmement, de nouveau, YHWH, qui veut dire Yahvé, l'Éternel. Selon les deux textes de Deutéronome et d'Isaïe, si je dis Isaïe, selon les versions bibliques, c'est la même chose que Ésaïe. Donc, si vous voulez, selon les textes de Deutéronome et de Ésaïe ou Isaïe, révélé au peuple juif, texte que je vous demande de relire dans la traduction mot à mot pour pouvoir mieux comprendre, l'Éternel est Dieu, Elohim, et aussi Dieu Eloah. L'Éternel est un, il est unique. Il est l'unique être à exister de cette façon. Trois pour un et un pour trois, voire la révélation trinitaire de Dieu. D'ailleurs, il n'y a aucun mystère dans l'unité de Dieu. Si l'on considère le langage banal où nous disons, par exemple, que le soleil, la terre et la lune forment un système cosmique unique. Le jour et la nuit constituent un jour unique. Genèse chapitre 1, verset 5. Dans la nature, nous rencontrons l'eau à l'état de glace, de vapeur et d'eau. Cependant, son essence est unique. La révélation de Dieu s'est étendue à tous les hommes, selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 36, parce que Dieu a décidé de personnaliser un de lui, lequel a été vu et connu pendant 30 ans comme étant le Fils unique de Yahvé l'Éternel. Psaume chapitre 2, verset 7, et ceci au milieu du peuple juif. Je veux un peu m'arrêter sur ce terme de fils avec mon auditeur israélite. Bien sûr que Dieu n'est ni père ni fils selon la terminologie humaine. Un pur esprit n'a pas d'organe reproducteur. Dieu n'a pas procréé, mais il a créé, c'est-à-dire il a amené à l'existence des êtres premiers en leur genre, les anges et les humains. En ce qui nous concerne, nous les humains, la Bible dit que Dieu a pris de la poussière terrestre Adama pour créer l'homme Adam et qu'il inspire dans l'homme une aspiration de vie infinie. Genèse, chapitre 2, verset 7. Si nous croyons les Saintes Écritures, nous voyons que c'est le souffle, l'esprit qui a donné la vie. La première vie d'Adam est donc spirituelle, soufflée par Dieu sur sa poussière charnelle. Adam est un fils spirituel de Dieu. En cela, le terme de père appliqué à Dieu s'explique parfaitement, surtout si l'on sait que le mot employé dans les textes pour dire père signifie aussi maître, protecteur, selon le psaume 81, verset 27, et Isaïe, chapitre 9, verset 5. À partir de cette image de Dieu comme père spirituel, eh bien je vois mal Dieu ayant des enfants naturels. Ceci conduirait, en effet, au polythéisme. L'explication du terme « Dieu », « fils de Dieu », se trouve au commencement de la Bible en Genèse chapitre 1, verset 1, verset 3 et verset 27. Elle est liée à la révélation trinitaire de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu les créa mâle et femelle. Dieu a voulu réaliser un homme qui lui ressemble, et pour cela il choisit l'un de lui, qu'il appelle pour nous faire comprendre Dieu le Fils, puisque « fils » dans le texte veut dire « choisi »,« pur » et « sans tache ». Pendant que Dieu le Père éclaire Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit anime l'ombre de Dieu d'une vie infinie. Tout cela a peut-être l'air pour certains un peu compliqué, mais vous pouvez réécouter cette étude, puisque c'est un CD autant de fois que vous voulez, et vous verrez, l'Esprit Saint va vous éclairer sur chaque difficulté. Donc, l'image animée de Dieu par Dieu, c'est le premier homme sans tache. C'était Adam, mais Adam avant le péché. En cela réside toute l'explication de la création de l'homme d'une part et de la révélation de Dieu d'autre part. La révélation de Dieu se complète par une autre action d'un de lui et celle du Saint-Esprit il s'est visuellement manifesté à la Pentecôte. Depuis, il accomplit au travers des disciples de Jésus-Christ le Messie que furent les premiers chrétiens et que continuent à être ceux qui pratiquent l'Évangile, juifs et autres, les premières œuvres d'amour et de puissance que le Fils avait faites jusqu'à son ascension, selon l'Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 12, et vous pouvez noter Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Lorsque je m'approche progressivement d'un feu, c'est que sa clarté m'a révélé sa présence. Et puis j'arrive au point où je vois sa flamme, et encore plus près, je sens sa chaleur. De ces trois expressions d'un feu, seule la flamme est matérialisée, c'est-à-dire le Fils. L'essence de ce feu est pourtant absolument unique. Les trois révélations de Dieu sont bien mises en évidence en 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, qui dit « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. » Dieu est le nom d'une unique famille éternelle, spirituelle, vivant d'amour et donnant le rayonnement. Genèse chapitre 1, verset 3. La famille Dieu se compose à égalité de nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Saint Jean chapitre 4, verset 24. Colossiens chapitre 1, verset 13. Ainsi que Jacques, chapitre 1, verset 17. Dieu possède les attributs suivants. Premièrement, parfaitement sage, selon Job, chapitre 12, verset 13. Parfaitement juste, selon le psaume, chapitre 7, verset 10. Parfaitement saint, selon Josué, chapitre 24, verset 19. Essentiellement éternel, totalement éternel. Romains chapitre 16, verset 26. Totalement miséricordieux. Exode chapitre 34, verset 6. Et absolument sauveur. Jude, verset 25. Totalement puissant. Genèse 17, verset 1. Et pour toujours présent. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Dieu a créé des messagers. Ce sont les anges, dont les uns se sont fait divinité, malheureusement. Ce sont les démons. Et ceci par envie pour recevoir aussi un culte. Dieu a ensuite décidé de concrétiser son amour en créant des êtres responsables, entièrement libres de le reconnaître, donc de reconnaître Dieu, ou le reconnaître comme Père, selon la Genèse, chapitre 1, verset 27, et qui, en l'aimant comme des fils et des filles, adoptifs, il faut bien le dire, peuvent hériter tous ses biens, puisqu'ils sont ses fils et ses filles adoptifs. La spiritualité, le rayonnement, l'amour et la vie juste, à jamais, selon Saint Jean, chapitre 10, verset 34, ainsi que le chapitre 14, verset 2. Les anges sont au départ au service de l'homme. Un père abandonné par son enfant cherche à tout prix à le contacter et à lui communiquer ses pensées d'amour et son soutien. C'est ce qu'a fait Dieu pour les hommes depuis la chute du premier Adam. Il y a le témoignage oral d'Adam et de ses descendants demeurés fidèles, tels que Hénoch, Hénoch, Noé et Abraham. Vous pouvez noter la Genèse, chapitre 4, verset 26, chapitre 5, verset 24, chapitre 6, verset 9 et le chapitre 12, verset 7. Ceci jusqu'à la découverte de l'Écriture en 2500 avant Jésus-Christ environ. Témoignage écrit au moyen des livres de Moïse à Salomon, rapportant leurs expériences, celles des patriarches et du peuple juif en Égypte, dans le désert et en Palestine. Ceci de 2500 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, par les différents écrits de l'Ancien Testament et des prophètes de 1000 à 450 avant Jésus-Christ. Ensuite, nous avons le témoignage vivant du Fils de l'homme, Jésus le Messie, à l'aube de notre ère. Nous avons donc maintenant son amour, car Dieu est amour. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Et cette révélation de Dieu est l'explication pratique de la Trinité. Pour qu'il y ait amour normal et véritable, il faut qu'il y ait non pas deux animaux, mais un homme et une femme. Un amour qui se concrétise passe du chiffre 2 au chiffre 3. L'homme, la femme et l'enfant, ça devient une famille. Si donc Dieu est amour, c'est qu'obligatoirement, il faut le chiffre 3. Le pluriel est devenu normal, puisque Dieu se dénomme lui-même le Père et le Fils. Cela nécessite par conséquent le Saint-Esprit. La Bible dit en Osée, chapitre 11, verset 4 et verset 9, « Je suis Dieu au singulier, je suis le Saint-Esprit, j'attire l'humanité avec les cordages d'amour, c'est l'action du Fils. » Et ce texte n'est rien d'autre que la révélation pratique de la Trinité de Dieu faite au peuple d'Israël il y a 2700 ans environ. Chers amis, la plus belle chose au monde, c'est, croyez-moi, l'amour. Et l'amour divin se dit agapé. Il est tout à fait différent de l'amour passion, eros, et de l'amour fraternel ou familial, philos. Il signifie « regarder avec une admiration désintéressée ». Si quelqu'un me dit qu'il m'aime, cela ne peut me laisser indifférent d'une manière ou d'une autre. Voyons comment l'amour de Dieu a cet amour qui l'a poussé à devenir père du premier couple humain, ont répondu ceux qui étaient destinés à être des fils et des filles. Ses intentions d'amour pour Adam étaient pures et sincères. Le coup de foudre passé, l'amour doit s'approfondir et être durable pour porter du fruit. L'on ne peut vivre longtemps d'amour et d'eau fraîche. Ou si deux arbres fruitiers ont été mis en présence de l'homme, et vous savez aussi de la femme. Pourquoi ? Parce que si la vie matérielle d'Adam dépendait d'une nourriture uniquement végétarienne, selon la Genèse chapitre 1, versets 29 et 30, sa vie spirituelle, c'est-à-dire sa relation d'amour avec Dieu, dépendait du fruit de ces deux arbres, dont l'un était on peut dire carrément un poison mortel pour cette vie spirituelle. Et dans un couple qui s'aime ou qui le dit, l'infidélité est un venin certainement mortel. Et à la longue, elle détruit le couple. La désobéissance s'est exercée en toute connaissance de cause, car Adam savait que le jour où il mangerait de ce fruit, il n'achèverait pas de périr, selon la Genèse chapitre 2, verset 17. Or notre sort n'est-il pas ainsi, de la naissance à la mort? Celui qui absorbe un champignon vénéneux, parce qu'il aura conservé malgré les conseils du pharmacien, ce champignon, ne risque-t-il pas de mourir? Les lois naturelles n'ont pas changé. L'homme a perdu sa vie spirituelle et il connaît le vieillissement. Il connaît la maladie et la mort physique, et ceci à cause de sa désobéissance. Il fallait donc qu'Adam façonne, affirme son amour pour le Père par le fruit de l'arbre de la vie. L'homme a préféré et préfère encore façonner égoïstement sa vie d'après sa volonté, faire son expérience vers sa propre connaissance de la vie, et non se laisser façonner par la douce main de l'amour divin. Adam avait un souffle de vie, et bien qu'il ait été prévenu, selon la Genèse chapitre 2, verset 17, il ne l'a pas nourri par le fruit de l'arbre approprié, de l'arbre de vie. Il devint un souffle qui se meurt, conséquence logique de l'absorption du fruit de l'arbre de la connaissance. L'enfant spirituel Adam ne pouvait arriver à la pleine connaissance que par la soumission, une soumission confiante au Père spirituel, lequel devait le mener à supporter cette connaissance dangereuse du bien et du mal par une marche expérimentale commune et progressive, selon 1 Samuel chapitre 2 verset 26, ainsi que selon Saint Luc chapitre 1 verset 80, ainsi que le chapitre 2 toujours de l'évangile de Luc chapitre 5, verset 52. Je répète, Luc 1, verset 80, Luc 2, verset 52. Si votre enfant, chers amis, votre enfant de 7 ans, s'empare du volant de votre voiture, il aura certainement un accident, risquant même sa mort, je pense. Donc, Adam avait le pouvoir qui était donné par Dieu, de dominer sur les animaux, selon la Genèse chapitre 1, verset 28, il avait à ce sujet une aide qui était sa femme, Genèse chapitre 2, verset 18. Adam s'est fait le complice d'une intervention surnaturelle, hors des lois naturelles de Dieu, lois par lesquelles il devait garder son Éden, lisez Genèse chapitre 2, verset 15. Adam s'est malheureusement allié avec un hors-la-loi, Et toute transgression de la loi entraîne une peine. La loi de Dieu étant pour tous les hommes, et sa peine atteint tous les hommes dès qu'ils la transgressent, et commence par Adam. Car le jour où tu mangeras de ce fruit, tu dois mourir, dit la parole de Dieu. Adam n'a dominé ni sur l'animal, ni sur le comportement de sa femme. Il a pris la responsabilité d'agir de son propre fond, selon saint Matthieu chapitre 13 verset 34, et non selon la hiérarchie salutaire établie par Dieu en sa faveur. Genèse chapitre 1 verset 28, ainsi que le chapitre 2 verset 18. Ève, elle a connu avant d'aimer. Genèse chapitre 3 verset 6. Or il faut l'amour pour supporter la connaissance. Je crois. Notez Genèse chapitre 3 verset 22, ainsi que Galates chapitre 5 verset 22, Éphésiens chapitre 3 verset 19 et Jacques chapitre 1 verset 13. Voyez-vous, il faut l'amour pour supporter la connaissance. La mort prévue par Dieu ne fut pas la mort physique immédiate, instantanée, mais ce fut un changement de nature immédiat. Avant la chute, Adam pouvait voir Dieu, Genèse chapitre 1 verset 28, et la Genèse chapitre 2 verset 15, mais après, il ne le voit plus. Genèse chapitre 3 verset 24. Tout comme la chute de la rétine rend, il me semble, aveugle et fait malheureusement découvrir une autre dimension à la nature, le changement est immédiat. Il est écrit que l'homme naturel ne peut voir Dieu et vivre. Exode chapitre 33 verset 20. Or, pour voir à nouveau Dieu et vivre, l'homme actuel doit être changé par une transformation obligatoirement extérieure à lui-même, puisqu'il a perdu sa nature spirituelle et infinie, et qu'il est devenu corruptible. Selon les lois naturelles, il est certain que la corruptibilité ne peut donner l'incorruptibilité, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42, et qu'un chien ne fait pas un chat et qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ainsi, Adam et Ève n'ont pu rester fils et filles de Dieu le Père, puisqu'ils ne l'ont pas aimé comme tel. Preuve en est qu'ils ont transmis à leur descendance humaine vieillissement, maladie et mort, chose totalement étrangère à Dieu. L'héritage spirituel de fils de Dieu n'est plus en la possession de l'homme. Face aux révélations de Dieu, une réaction s'impose, celle d'émettre son opinion, sa pensée. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que tout homme normal doit faire, ce tout un chacun, parce qu'il a lui-même réaction, il a donc lui-même la réaction que Adam a eu envers Dieu, souvenez-vous, prouve bel et bien sa filiation avec Adam tant que l'homme n'est pas d'accord avec Dieu. Il demeure donc dans la condition d'Adam. L'homme et la femme, que j'appellerai souvent Adam. Donc, vous comprendrez que si nous disons Adam, ça inclut la femme. Et pour mieux dialoguer, ils ont élaboré trois systèmes qui prétendent trouver en eux-mêmes les sources d'un parfait amour, d'une paix totale, d'une joie durable et d'une vie juste. Ce sont, premièrement, le système matérialiste. La meilleure des sociétés ne pourra donner qu'un certain bien-être du corps et une certaine euphorie de l'âme, mais elle est incapable d'atteindre à la vraie paix du cœur, car ce cœur-là est un domaine invisible. Le matérialisme veut ignorer que l'homme n'est pas que matière, mais qu'il conserve une semence spirituelle capable de germer. Adam est plus qu'une créature animale. Le matérialisme ne tient pas compte de la nature tripartite de l'homme. Je répète, de la nature tripartite de l'homme, qui veut dire corps, âme et esprit, ce qui conduit à une confusion entre la race humaine et les races animales, celle-ci étant seulement composée d'un corps et d'une âme. L'animal ne reconnaît le bien et le mal que par dressage et non par conscience. L'animal, au niveau de son âme, a bien des sentiments, mais s'il parle, son langage est irresponsable, ce qui est l'inverse chez l'homme saint. L'homme saint, ce n'est pas du tout à comparer avec un perroquet, même très savant. Le matérialisme ne tient pas compte de l'historicité du caractère surnaturel de Jésus-Christ. Pourtant, le plus grand historien romain de l'Empire, Tacite, écrit en 130 environ, que sous la domination de Tibère, Christ a été mis à mort par le procureur Ponce Pilate. L'historien officiel du peuple juif du 1er siècle, qui était Flavius Joseph, juif contemporain de Jésus-Christ, reconnaît que ce même Jésus-Christ a fait des œuvres admirables, qu'il était le Messie et qu'il a été vu vivant le troisième jour après sa mort, écrit dans Antiquité judaïque, livre 18, au chapitre 4. Pourtant, plus de 500 personnes à la fois ont vu Jésus-Christ ressuscité et lui ont même parlé, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Pourtant, 17 prophètes différents, ayant vécu 500 ans en moyenne avant le Messie, ont donné sur lui 333 prophéties qui se sont réalisées à la lettre durant les 3 ans de la mission de Jésus-Christ, et 17 d'entre elles se sont accomplies pendant les 6 heures qu'a duré sa crucifixion. Notez l'évangile de Saint Jean, chapitre 19. Si le matérialisme est sincère, il peut expérimenter que Jésus-Christ est Dieu par la mise en pratique de sa parole et rien que de sa parole, qui est la Sainte Bible, ce qui lui fera faire une expérience probante. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Deuxièmement, le système humaniste. L'homme a confiance en l'homme. La société, par le progrès technique, scientifique et par les bonnes relations des hommes entre eux, évoluerait vers son amélioration et son perfectionnement. Qu'est-ce que la société, sinon un ensemble d'hommes et de femmes ? Je ne vois pas comment un ensemble peut devenir bon si les composants sont plus ou moins mauvais. Ça, c'est mathématique. Un bon vin devient meilleur en vieillissant, même un très bon vinaigre en vieillissant ne fera jamais un bon vin. Justement parce que, voyez-vous, c'est du vinaigre. Quel est l'homme qui peut prétendre être parfaitement bon ? La pensée de l'amélioration de la société est totalement utopique et irréelle. Lisez un peu les journaux ou regardez la télévision. Ce n'est pas l'ensemble qu'il faut changer, c'est l'élément de base qui est constituant de cet ensemble, c'est-à-dire le cœur humain. Si je mets du très bon vin dans une bouteille où il ne reste qu'une seule goutte de vinaigre, vous savez bien que cela deviendra aussi à la longue du vinaigre, et plus ou moins en bref échéance parfois. D'ailleurs, si beaucoup d'hommes se font des illusions sur eux-mêmes, Dieu ne s'en est jamais fait. Il est dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. » Jérémie chapitre 17, verset 5. L'homme ne peut, par ses propres moyens, s'élever jusqu'au ciel parfait de Dieu. L'homme n'est pas uniquement bon, il est aussi méchant. Un jour ou l'autre, tout homme normalement conscient commet le péché, selon Romains chapitre 3, verset 19, qui le condamne à passer par la mort. Seul un homme qui n'a été que bien et bon peut prendre, donc, et prétendre surtout, de transformer le mal en bien. C'était uniquement Jésus-Christ de Nazareth, et lui seul fut cet homme-là. Notez Saint Matthieu chapitre 5, verset 48, et l'évangile de Jean chapitre 1, verset 29. Donc, si l'humanisme est sincère, il doit admettre qu'il y a une profonde différence entre les paroles des hommes et la parole de Dieu qui est la Bible. Il doit donc admettre aussi que si Dieu existe, c'est bien sûr lui et sa parole qui ont raison, non les hommes, même si intelligents soient-ils. Et troisièmement, nous avons le système religieux. Voyez-vous, la religion ne remplace pas l'Esprit de Dieu, absolument pas. La religion, c'est une greffe de foi, une prothèse d'amour, mais non la vie de Dieu. Si le ciel peut se gagner ou se mériter par des pratiques religieuses, à quoi sert le don gratuit de la vie de Christ à la croix ? Aucun de ceux qui sont morts avant Christ n'était assuré de leur accession au ciel, c'est-à-dire de leur accession, vous l'avez bien compris, pour aller au ciel. Or, voyez-vous, chers amis, depuis l'œuvre de substitution de Christ, eh bien les choses ont totalement changé. Le passage dans le ciel est déjà assuré sans aucun jugement pour les chrétiens authentiques. La religion ne peut pas être la porte du ciel, puisque c'est Christ seul qui est la porte du ciel. Lisez ou notez Saint Jean chapitre 10, verset 7. Pour entrer dans le module lunaire, il n'y a, je crois, qu'une seule porte. Donc il est faux et déloyal de dire qu'il en existe d'autres. La religion est totalement incapable d'assurer le passage dans le ciel, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 8 et le verset 11. Les religions ajoutent ou retranchent des mots, des phrases, des chapitres à la parole de Dieu qui est la Bible. Par conséquent, elles font Dieu insuffisant ou imparfait dans sa révélation. Chers amis, voyez-vous, après la théorie de Dieu et celle de l'homme, il est naturel de passer à la pratique. Il doit y avoir tout d'abord la nécessité de la transformation de l'homme, me semble-t-il. La Bible montre l'absolue nécessité d'une transformation surnaturelle et non pas humaine ou religieuse. Prenons l'exemple d'une source de montagne. Dès son griffon, elle chute géographiquement et chimiquement, c'est-à-dire qu'elle descend vers la vallée tout en se polluant. Or d'elle-même, elle ne peut plus remonter. Elle descend et se pollue de plus en plus. Mais en arrivant à son point le plus bas, qui est la mer, sous l'influence de l'énergie solaire extérieure, l'eau polluée se transforme en eau de pluie, qui sera à nouveau pure. Cet exemple tiré de la nature nous donne une image du devenir d'Adam laissé à lui-même dès son origine. Il ne peut que chuter et se polluer par les convoitises pour en arriver à son point le plus bas qui est le péché. C'est à ce point-là que le soleil, donc la parole de Dieu, peut le transformer à condition qu'il accepte, par la foi évidemment, cette action d'une énergie extérieure à lui. Et c'est Adam perdu, incapable de se purifier par lui-même, redevient enfin un Adam nouveau, un Adam sauvé, sauvé d'une perdition de plus en plus totale et définitive, donc un Adam hors de danger, puisque sauvé veut dire mettre hors de danger. La Bible condamne formellement toutes les transformations humaines et religieuses obtenues, par exemple, par ascétisme, mysticisme, spiritisme, réincarnation, lévitation, méditation transcendantale et autres parapsychologies. Je connais et reconnaît comme réelles de telles manifestations humaines et surnaturelles. Elles peuvent procurer un certain bonheur, une certaine puissance de libération temporaire, mais elles sont incapables de donner le bonheur et la libération qui demeurent à jamais, éternellement. Elles sont des portes ouvrant sur le malheur éternel, puisque elles évitent de passer par la véritable porte, à savoir Jésus-Christ le Messie, selon 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 et 15. L'homme est donc soumis au mal et la mort. L'homme est soumis au mal et à la mort. Vous pouvez noter Jacques, chapitre 1, verset 15. C'est une évidence de tous les jours. Par la puissance de Christ, la forme extérieure, le corps, selon Philippiens, chapitre 3, verset 21, eh bien, ce corps sera transformé hors de la résurrection. C'est-à-dire, je répète, ce corps sera transformé lors, pendant et après la résurrection. Donc, nous serons transformés quand la résurrection aura lieu. Et par la même puissance de Christ, il faut bien le dire, la forme intérieure qui est l'âme, selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, elle est déjà transformée pendant, oui, pendant cette vie, car l'homme animal qui est âme est en puissance un être éternellement esclave, selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Mais l'homme spirituel, qui est l'esprit, est en puissance un être éternellement libre. Voilà la différence, selon Saint Jean, chapitre 8, verset 36. Je crois que ça vaut la peine de répéter. L'homme animal, âme, est en puissance un être éternellement esclave, selon 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Mais l'homme spirituel, esprit, est en puissance un être éternellement libre, selon Saint Jean, chapitre 8, verset 36. La vie terrestre est le temps de patience accordé par Dieu à Adam pour qu'il accepte le retour au commencement, Genèse chapitre 1, verset 31, et à la soumission volontaire au Père Céleste dans une repentance sincère qui germe dans son cœur quand il considère le prix que sa dépollution a coûté au Fils Céleste. Notez la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. Il est donc réservé à Adam une issue commune à cette vie terrestre. C'est le retour du corps à la terre, Adama, Genèse 3, verset 19. Et après cela, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Ce n'est pas moi qui me suis fait naître. Donc la vie que j'ai ne m'appartient pas. J'en suis seulement locataire. Je peux me faire mourir avant le temps fatidique. Cela n'empêche que de cette façon ou d'une autre, je dois tout de même mourir et rendre ma location de vie. Voyez-vous, une voiture louée doit être rendue au propriétaire même si le locataire se tue. Christ a été le seul à reprendre, quand il l'a voulu, sa vie laissée à la croix. Il en était donc propriétaire. Il est écrit que Dieu est esprit, Saint Jean chapitre 4 verset 24, et qu'à sa mort, Jésus-Christ a remis son esprit entre les mains de son Père, de Dieu. Saint Luc chapitre 23 verset 46. Or, comme il est ressuscité sans aucune intervention humaine, c'est bien que lui, Jésus-Christ, est le Dieu propriétaire de cet esprit. Ils ne sont donc pas qu'une seule et même entité, je répète, Ils ne sont donc pas qu'une seule et même entité. Le locataire doit remettre les clés de la voiture une fois les clés remises. Il ne peut plus profiter de la voiture. Donc, voyez-vous, je dois corriger quelque chose, c'est très important. On a vite fait un petit lapsus de un certain mot qui pourrait devenir autre chose. Alors je répète, Jésus-Christ, comme nous le savons, a remis son esprit entre les mains de Dieu son Père. C'est écrit dans Saint Luc, chapitre 23, verset 46. Or, soyons bien précis et faisons pas de lapsus, surtout moi. Comme il est donc ressuscité sans aucune intervention humaine, c'est bien que lui, Jésus-Christ, est le Dieu propriétaire de cet esprit. Ils ne sont donc qu'une seule et même entité. Je répète, ils ne sont donc qu'une seule et même entité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Excusez-moi du lapsus. C'est très important. Le locataire doit remettre les clés de la voiture une fois les clés remises. C'est clair. Il ne peut plus profiter de la voiture. Jésus-Christ, bien au contraire, il a remis les clés de sa vie, mais contrairement à nous, 3 jours après, il a profité de sa vie pour toujours. Et cette vie était donc bien la sienne. Nous sommes tous, chers amis, légataires de l'esprit de vie de Jésus-Christ. Mais nous pouvons refuser son Nouveau Testament, et ceci selon cette alternative, notre âme deviendra malheureusement à l'instant là de la mort. Elle deviendra prisonnière de la mort et de ces mêmes esclavages connus sur la terre, puisqu'elle n'a ni accepté ni cru au sacrifice expiatoire de Christ, selon Romains chapitre 3, versets 21 et 25. Elle vivra, d'accord, à jamais, mais enchaînée à elle-même et au remords, selon Apocalypse chapitre 14, versets 10 et 11, de savoir qu'elle a donc manqué le but de la vie, ainsi que la rencontre avec le Saint-Esprit de Dieu sur la terre, et cela à cause de son péché non pardonné. En grec, péché veut dire manquer le but. Chers amis, soyons donc libérés, libérés de l'esclavage vécu dans les souffrances, les maladies, les vices, les angoisses et les injustices, puisque durant son passage terrestre, nous pouvons être alliés à Dieu par une rencontre avec le Saint-Esprit de Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. La Bible ajoute qu'à cet espoir d'être libéré, elle est déjà réellement libre sur terre, selon Romains chapitre 8, versets 17 et 18. Et ceci par la jouissance qu'elle a du Nouveau Testament de Dieu, Hébreux chapitre 9, versets 16 et 17. La clause essentiel du testament de Jésus-Christ le Messie est que ceux dont le péché est pardonné et ceci en son saint nom, sont légataires de sa vie, et ceci dès maintenant et à jamais. C'est écrit dans Tite, chapitre 3, verset 7. Donc, pour bien discerner toute l'importance de ce péché qui nous frustre de notre héritage, il faut connaître ce qui le révèle. Et ce qui le révèle de la façon la plus claire, c'est bien entendu la loi de Dieu. Donc, nous savons bien, mais parfois il faut le répéter, malheureusement. La première loi, c'était « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui ne sont dans les eaux plus bas que la terre. » La deuxième loi, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Je ne sais pas si vous avez bien compris. La troisième loi, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. La quatrième loi, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. La cinquième loi, honore ton père et ta mère. La sixième loi, tu ne tueras point. Oh là là! Aujourd'hui, on tue bientôt tous les jours ou toutes les heures. La septième loi, tu ne commettras point d'adultère. Eh bien là, mes amis, la huitième loi, tu ne déroberas point. Ça se fait tous les jours. La neuvième loi, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et la dixième loi, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode chapitre 20, depuis le verset 1 jusqu'au verset 17. Oh là là! Il nous faut donc savoir que nous jouons notre vie. Et ceci sur une seule pensée de convoitise. C'est pas moi qui le dis. Et qui de nous n'a jamais convoité? Je me pince le nez. Mais à cause de la faiblesse de la chair et de l'éventualité du péché, le plan de Dieu pour Adam a été établi dès avant la fondation des mondes actuels, Éphésiens chapitre 1, verset 4, en tenant compte de la relation entre la chair et l'esprit, l'imperfection et la perfection. Premièrement, Dieu est parfait, au sens étymologique du mot, et son nom seul comprend les trois formes de verbes tels que « être » et « ou exister » au passé, au futur et au participe présent, c'est-à-dire qu'il est immuable et pleinement accompli, selon la Genèse chapitre 2, verset 4. Deuxièmement, imparfait dans le sens hébraïque ne veut pas dire péjoratif en soi, mais cela veut signifier quelque chose qui a commencé et qui n'est pas achevé. Je répète, imparfait dans le sens hébraïque n'est pas péjoratif en soi, mais signifie quelque chose qui a commencé et qui n'est pas achevé. Troisièmement, toutefois, ce qui est imparfait peut se dégrader. Et ceci est une loi naturelle. Quand l'énergie se transforme, elle se dégrade. Quatrièmement, les anges, comme l'homme, pouvait par amour employer l'énergie, le rayonnement et la lumière donnés par Dieu dans le sens du bien, du parfait de Dieu. Comme l'homme n'est malheureusement pas, heureusement pour lui, l'instigateur tout seul du mal, mais le complice. Dieu lui accorde donc le sursis de sa vie pour qu'il prenne conscience et qu'il change d'avis. Se repentir veut donc dire changer d'avis dans le texte de saint Matthieu, chapitre 4, verset 17, donc prendre une décision opposée. Du fait que l'énergie vitale d'Adam s'est dégradée, elle ne peut scientifiquement que se dégrader de plus en plus. Cinquièmement, lorsque l'énergie se transforme, il y a perte. Et pour récupérer la dégradation de l'humanité, il y aura perte d'homme. On dit vulgairement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et sixièmement, mais heureusement, de l'imperfection humaine, le plan de Dieu est d'en tirer de la perfection. Évangile de saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Chers amis, avant de terminer par la prière ensemble, je voudrais vous citer quelque chose qui est d'un ancien cantique. Ce sont des paroles merveilleuses qui vont compléter notre prière. Et ce cantique disait « Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Car il est notre Dieu, notre haute retraite. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, le Seigneur, et pour nous, contre nous, qui sera ? Alléluia. Triomphant en Jésus-Christ et vivant pour lui plaire. Prions maintenant ensemble. Oui, Seigneur, ta bonté demeura toujours. Nous publierons les louanges et les miséricordes de l'Éternel à cause de tous les biens qu'il nous a faits. Qu'ils sont nombreux tes biens envers ceux que tu daignes appeler tes enfants et que nous sommes loin encore d'y répondre par notre fidélité. Ô, pardonne-nous d'être si souvent rebelles, de contrister ton Saint-Esprit et de t'offenser de tant de manières. Ne pouvons-nous pas dire à notre tour qu'on n'a jamais ni entendu de nos oreilles et que l'œil n'a jamais vu d'autre Dieu que toi, qui vis de telles choses, et qui a fait toutes ces choses pour ceux qui s'attendent à toi. Augmente notre foi, Seigneur. Donne-nous une assurance croissante de notre réconciliation avec toi, par le sang de notre Sauveur. Et préserve-nous de jamais chercher ailleurs le fondement de notre paix et de notre espérance éternelle. Nous adorons ton saint nom et ton amour qui a mis ce salut à la portée du plus faible, du plus indigne de ceux qui s'approchent de toi par la foi et qui l'offre maintenant gratuitement à tous ceux qui veulent le recevoir. Ô, donne-nous de le faire connaître, de te faire connaître, d'être comme des témoignages vivants de ta grâce. Console par ta délivrance tous ceux qui gémissent sous le sentiment et la puissance du péché. Ô soleil de justice, qui porte la santé dans tes rayons, lève-toi sur eux et inonde leur âme de tes clartés ineffables. Exauce-nous, ô Dieu, pour l'amour de notre Sauveur bien-aimé. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Aussi, sachez que cette série d'études va continuer, évidemment, encore quelque temps, où jeter l'ancre. Et au fur et à mesure que vous pourrez écouter ces enseignements, vous grandirez dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, et pour mieux le servir, car nous désirons tous de devenir ses disciples. Merci. À bientôt, à nouveau, mes très chers amis.